Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce 8e épisode de Jason Ballon Rond. On a eu un petit problème avec le jingle au début, mais
C'était
c'est bien
bizarre.
correct. On fait avec, comme on dit. C'est le contenu qui est le plus important. Et parlant de contenu, on est avec quelqu'un qui en possède beaucoup, qui en fournit du très bon. Doualé Ibrahim, comment ça va, Dou?
Ah, écoute, ça va pas si peu que ça, Ali, on parlait de hockey, mais non, tout va bien, tout va bien.
On va rester dans le soccer, mais oui, le hockey, les séries, ça s'en vient. On va d'ailleurs avoir un podcast aux premières loges au Club École qui revient pour les séries de la Coupe Stanley durant tout le printemps. Donc, soyez à l'écoute pour ça. On n'a pas Thomas Lafond qui était avec nous habituellement. On le salue. Il va être de retour pour des prochains épisodes, certainement. Fait que d'où, là, dans le monde du ballon rond, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas fait d'épisode, mais il y a quand même plusieurs choses qui sont passées. On va débuter, ben on va parler de la Ligue des champions et de l'Europa League et des championnats en Europe également. Mais on va commencer par notre pauvre CF Montréal, il faut le dire, là, présentement. Ça va pas bien. 6 matchs joués, 5 défaites, une seule victoire à l'arraché au Stade olympique. On était là et aucun but marqué dans les autres matchs autres que cette victoire de 3-2 qui remonte à quelques semaines déjà. Écoute, il y a un match demain au Stade Saputo. On revient à domicile. On enregistre ça le vendredi et 14 avril. Demain, le 15, match à domicile. Comment t'entrevois ce match-là, d'où la victoire est pratiquement essentielle, je pense?
Ouais, ben, au point que le CF est rendu, je pense que ça va juste faire du bien pour tout le monde si le CF remporte le match demain contre DC United. Comme, genre, pour les deux dernières performances. Parce que, tu sais,
Horrible.
faut quand même le dire. Faut quand même le dire. Malheureusement pour le CF, tu sais, il y a eu la trêve internationale qui est arrivée juste après la victoire à l'arraché au Stade Olympique. Fait ils ont perdu un certain momentum. Puis après ça, tu as retrouvé à jouer 2 matchs à l'extérieur. À Vancouver et du côté de la Nouvelle-Angleterre, puis juste te faire démolir lors de ces 2 rencontres-là.
Ouais, défaite de 5-0 à Vancouver, puis défaite de 4-0 en Nouvelle-Angleterre.
Ah non, c'est horrible. Donc, c'est sûr que là, ça va être un match assez intéressant à voir pour ça à Montréal, surtout que après l'échange de Kamal Miller, là, ça va être.
Ouais, on va en parler.
Il va y avoir des grandes questions. Qui devront être répondus, à mon avis, au stade Saputo, Pop Talk, samedi.
Tout à fait. Bon, tu viens de parler de Cameron Miller, on va se lancer dans ce sujet-là. Donc, gros échange là, effectué par Olivier Renard cette semaine. Cameron Miller et 1,3 million de dollars s'en vont du côté de l'Inter Miami. Et en retour, le CF Montréal obtient 2 joueurs, un milieu de 22 ans, Bryce Duke, qui quand même possède de bonnes qualités et plus souvent qu'autrement titulaire était titulaire avec l'Inter Miami assez souvent. Et un ailier de 28 ans, Ariel Lassiter, Ariel, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Lui qui n'est même pas tant que ça titulaire à Miami, utilisé plus comme remplaçant, je pense. Qui a roulé sa bosse en MLS et un peu en Liga MX aussi. Que penses-tu de cet échange-là? On perd le seul morceau qui restait du CF Montréal des joueurs qui étaient allés à la Coupe du Monde pour le Canada, à part Samuel Piette, mettons, là, mais Piette est blessé en plus. Donc, ouais, Miller connaissait pas une bonne saison, ça, il faut le dire jusqu'à maintenant, mais avait connu une très bonne saison l'an dernier. Là, ça l'affaiblit la défensive montréalaise, mais ça l'ajoute la profondeur au milieu et un peu en attaque avec Lassiter. Fait que qu'est-ce que t'en penses de cet échange-là?
Ouais, ben écoute, d'abord, c'est dommage là, que Kamal Miller passe, surtout que Kamal Miller était un des meilleurs défenseurs de la MLS l'an passé, tout cela avec l'équipe Canada lors de la dernière Coupe du Monde. C'était quand même un bon défenseur de la MLS, défenseur important pour la défense du CF Montréal. Mais je crois que malheureusement, oui, Kamal Miller avait un début de saison difficile, un peu comme c'est le cas également de Rudy Camacho et également de Joel Waterman. Je pense que c'était juste un mauvais début de saison pour toute cette défense-là. Mais je crois que la raison pourquoi Kamal Miller a été sacrifié, c'est juste que c'est le défenseur qui a une plus grande valeur
Ouais.
pour ben, dans, dans, pour un échange, pour un transfert. Puis surtout que le CF, écoute, besoin de renfort. Puis je pèse pas mes mots. Le mot renfort, là, renfort au milieu de terrain. Parce qu'il y a absolument personne, surtout avec la blessure de Samuel Piette, c'est encore pire à l'heure actuelle. Alors, je pense que Cameron Miller, malheureusement, malgré que pour moi, était probablement, même je suis prêt à dire, c'était probablement le meilleur défenseur de la MLS de la saison dernière, se retrouve du côté de l'Inter Miami. Puis, écoute, c'est quand même deux mentions intéressantes, surtout Duke, là, qui je trouve qui est 22 ans. C'est un profil vraiment, vraiment intéressant pour le CF Montréal. Puis, écoute, il a quand même été titulaire, puis il a quand même fait. Il y a des choses assez prometteurs qu'il a fait du côté de l'Inter Miami. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, surtout pour Duke. Pour Lasseter, comme tu l'as dit, c'est un gars de 28 ans. C'est un gars qui a un peu roulé sa bosse. C'était pas un morceau hyper important de l'Inter Miami. Donc, ça va être intéressant de voir ces deux joueurs-là qui risquent en fait de faire du bien à l'attaque montréalaise alors qu'elle en arrache depuis le début de la saison. Donc, pour vrai, pour répondre à ta question, je pense juste qu'ils ont sacrifié quand même Miller parce qu'ils avaient des besoins beaucoup plus préoccupants sur d'autres postes.
Ouais, mais c'est ça. Mais là, on dit ça, mais on a encaissé 9 buts dans les deux derniers matchs. Mais en même temps, on a marqué 3 seuls buts depuis le début de la saison, puis c'est dans le même match. Fait qu'honnêtement, là, on faut le dire, on a des problèmes partout. Là, on a misé sur affaiblir la défense, puis essayer de marquer plus de buts parce que les buts marqués, c'est clairement un problème, là. Puis ouais, moi, écoute, faut les voir jouer avant de se prononcer là-dessus, ça c'est sûr, là. On va pas commencer à dire que c'est un mauvais échange ou un excellent échange avant de les avoir vus jouer. Cameron Miller, c'est une grosse perte en défense. On a déjà perdu Alistair Johnston, Rudy Camacho, un carton rouge. Là, notre défense repose sur Waterman, Camacho. Corbeau, on a ramené Corbeau. Il faut que Corbeau joue du gros soccer pour que notre défense puisse s'en tirer pas pire cette saison parce que ça commence très mal. Renard a fait un pari parce qu'il fallait changer les choses. Bryce Duke, tu l'as dit, je pense que c'est intéressant comme profil. Le milieu du CF Montréal se fait complètement manger depuis le début de la saison. Donc, je pense vraiment au niveau de la relance, il va aider Bryce Duke. T'sais. Sean Rhea joue pas mal, mais a besoin d'aide. Miljevic est blessé aussi. Bref. Bryce Duke, t'sais, le dernier jeune joueur intra-MLS que le CF Montréal est allé chercher comme ça, c'est Georgi Mihailovic. Ça a donné un très bon résultat à Montréal.
Non, ouais, c'est
excellent. C'est pas exactement le même type de joueur, mais ça pourrait bien débloquer et il pourrait être d'une grande aide pour le CF Montréal. Pour Lasseter, honnêtement, je suis vraiment pas convaincu. Il n'y a pas de grosses statistiques. Je pense pas qu'il va vraiment aider à aller mettre beaucoup de buts de plus, que ce soit par des passes décisives ou des buts. Mais c'est de la profondeur, comme tu l'as dit. Mais il y a aussi le 1,3 million. Là, ça, c'est beaucoup d'argent que peut-être. Est-ce que ça aurait été mieux d'acheter cet hiver au lieu de le dépenser? On aurait pu garder Miller. On n'aurait pas eu Duke aussi, mais moi, c'est ça que je reproche à l'organisation montréalaise depuis le début, c'est qu'on a vendu à la tonne, on a vendu des gros morceaux et on est allé chercher presque personne. On est allé chercher Herrera, entre autres, mais comparé à ce qu'on a perdu, ça ne remplace vraiment pas. Olivier Renard a fait une conférence de presse, je ne sais pas si tu as vu. Là,
Il dit que c'était pas un move de panique de la part de CF d'échanger Cameron Miller, mais je peux te garantir que c'est pas mal le contraire, là, parce que c'est d'échanger Cameron Miller, plus de donner 1,6 million de dollars pour acheter deux joueurs dans des postes qui sont devenus des lacunes cette saison, c'est un move de panique, là.
Ben, j'ai tendance à être d'accord avec toi, t'as pas le choix là, de faire quelque chose, que ça va te c'est horrible, c'est terrible la saison qu'on a en ce moment. Puis aussi, ce qu'il a dit, c'est que il a un peu têté Saputo. C'est une importante famille dans le monde du soccer à Montréal et tout. Il a dépensé plein pour la culture footballistique à Montréal. Oui, je suis d'accord avec ça, mais il fallait sortir l'argent du côté de Saputo cet hiver, tant qu'à moi. On l'a pas fait et je pense que c'est. Je ne suis pas dans l'entourage de l'équipe. Là. Ce que je dis, j'ai aucune idée si c'est fondé. Mais Renard, je pense que il a fait quand même des bons moves jusqu'à maintenant depuis son arrivée. Et je pense qu'il aurait voulu aller faire des signatures, recruter des plus de joueurs cet hiver. Mais je pense tout simplement qu'on n'a pas voulu lui accorder le budget du côté de Saputo. C'est mon opinion personnelle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Là.
Écoute, on peut se poser plusieurs questions sur M. Saputo depuis de nombreuses années. Mm-hmm. Il est en partie responsable aussi du départ de Wilfred Nancy
oui.
à la fin de la saison aussi.
Ça fait extrêmement mal, lui, qui va bien à Columbus.
Oui, c'est ça. Donc, déjà là, non seulement pas donner le plein contrôle à ton entraîneur-chef, mais en plus, ne pas donner le plein contrôle à ton directeur technique, ton directeur sportif, pardon. C'est assez questionnable tout ce qui se passe par rapport au CF Montréal. Puis surtout, c'est questionnable aussi les décisions prises par Joey Saputo. Là, comme ton but. Genre, je comprends que c'est une entreprise au final, le CF Montréal, puis que comme il faut que cette équipe-là soit rentable. Mais en même temps, tu peux pas être rentable sans avoir des résultats sur le terrain. Là, comme c'est obligé de venir avec ça. Là. Parce que sinon, si t'as pas ça, tu vas juste pas être rentable. Puis malheureusement, ça arrive la saison, si elle continue comme ça, la saison risque d'être longue pour une autre équipe montréalaise cette année.
T'as totalement raison, il faut se redresser dans les prochains matchs, sinon ça va être terrible. Je parle même pas d'essayer de se rendre en série, là. Je parle de que la saison soit moins catastrophique qu'elle l'est en ce moment. Puis voilà. Parlant de catastrophe, le Renard a dit que c'était pas un move de panique. Mais Lozada, là, le coach, là, M. Hernan, il doit être grandement sous pression. Est-ce que tu penses qu'on pourra avoir un congédiement dans les prochains matchs s'il n'y a pas des succès bientôt? Là?
Moi, honnêtement, je crois que ça va peut-être un mois. Moi, je pense que je donne un mois de plus à Lozada. Parce que pour vrai, si la glissade continue du côté de Montréal, c'est sûr à 1000% que le CF va se commencer à se poser de vraies questions par rapport aux résultats sur le terrain, autres que les joueurs. Parce qu'à un moment donné, oui, on sait que les joueurs, peut-être que les joueurs ne sont pas aptes à offrir de bonnes performances sur le terrain, mais peut-être qu'au final aussi, le problème, c'est le système de jeu, c'est peut-être l'entraîneur-chef. Donc, en tout cas, pour Lozada, il faut vraiment qu'il offre des résultats immédiats sur le terrain, surtout que tu débarrasses Cameron Miller, tu rajoutes de la profondeur à l'attaque. Donc, le but, c'est qu'il faut absolument qu'il marque, il faut absolument qu'il rapporte des matchs parce que sinon, moi, je donne un mois maximum à Lozada pour offrir des résultats un peu plus positifs. Puis, sinon, ça va être ciao, là. C'est pas compliqué, ça va être ciao. Là.
C'est ciao, Lozada, s'il n'y a pas de résultat. Je suis 100% d'accord avec toi. Même qu'un mois, je pense que en un mois, on joue 4-5 matchs. Là. Moi, je me dis qu'on perd, on n'a pas de résultat dans les 2-3 prochains. Ça pourrait déjà être la débarque. Et je ne veux pas mettre toute la blâme sur Lozada, mais c'est lui la cible principale quand on voit ces déboires-là, parce que c'est tout le temps ça, c'est le coach qui paye en premier. Puis non, les joueurs, il y en a plusieurs qui ne performent pas comme ils le devraient. L'attaque, la défense, le milieu, c'est horrible partout. Il y a Jonathan Sirois, là, s'il y a...
Ouais, c'est le point positif.
C'est le seul point positif de la saison jusqu'à maintenant, c'est Jonathan Sirois. Et le match fou qu'on a eu droit au Stade Olympique, c'est les seuls points positifs qu'il y a à retenir là. Là, on va avoir un peu plus de matchs à domicile avec l'ouverture du Stade Saputo dès demain. Est-ce qu'il faut que ça l'aide, là? Parce que, écoute, on est 1-1 à domicile, c'est ça le positif. Là, il faut que ça nous aide et ça l'aide à lancer la saison niveau des succès. Parce que sinon, je pense qu'il va y avoir Lozada va partir. Je peux pas croire qu'on va se laisser glisser comme ça. Donc voilà, d'où Stade Saputo demain, j'y serai. On espère du positif pour le CF Montréal. Bon. Ouais. Allons du côté de la Champions League maintenant. C'était les débuts de quart de finale aller en Ligue des Champions, tout le temps une période que l'on adore. Commençons avec les matchs de mardi. Benfica, Inter, 2-0 en faveur d'Inter. Bon, on disait Benfica peut-être pourrait surprendre, mais ce n'est pas arrivé.
Non, effectivement, du côté de l'Inter Milan, en tout cas, Paris réussit en allant rapporter 2-0 du côté de Benfica. Ça a été un bon match de l'international de Milan. Puis écoute, les gros morceaux ont été performants. Tu as eu un but de Lukaku. Bon, Lukaku a marqué penalty, mais même Barella a bien joué.
Ouais.
Tu as vraiment eu un effort collectif qui était là du côté de l'Inter Milan. Puis de l'autre côté, du côté de Benfica, c'est sûr que c'est un résultat très décevant pour une équipe qui, pour vrai, autre que Napoli, c'était l'équipe la plus surprenante cette saison du côté de la Champions League. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans cette confrontation-là, parce que c'est sûr que, pour vrai, c'est sûr que l'Inter Milan part en nettement favori pour le match retour avec une avance de 2 buts.
Surtout que c'est à la maison, le match
retour. Surtout au San Siro, ça va être fou de voir ce qui va se passer de cette confrontation-là. Mais en même temps, je ne serais pas surpris qu'il y ait une remontée de Benfica non plus. Je crois que malgré que l'Inter Milan est en bonne position pour ce qu'elle fait en demi-finale, je crois quand même que le match est encore ouvert et que peut-être que Benfica peut espérer remonter du côté de l'Italie, malgré que ça va être très difficile.
Yes, puis ouais, c'est ça. T'sais, on a les armes, on a Gonçalo Ramos, Rafa Silva, on a des bons joueurs offensifs.
Mm-hmm.
Mais ça va être très compliqué. On se dirige, là, à moins d'une grosse performance de Benfica, on se dirige vers une demi-finale 100% italienne, parce que de l'autre côté, c'est deux équipes italiennes. Et écoute, j'ai pas les stats devant moi, mais ça doit faire un méchant bail qu'on n'a pas eu ça, une demi-finale complètement italienne. Ouais. L'autre match qui se jouait mardi, lui, c'était un match très intéressant. Il a été complètement dominé par Manchester City. Manchester City, Bayern Munich. Le gagnant de cette confrontation-là va avoir de très grosses ambitions pour remporter la Ligue des Champions tout court. Pas se rendre loin, vraiment la remporter. C'est deux équipes qui sont favoris dans la compétition. Et Manchester City, c'était à domicile, c'était à l'Etihad. Vraiment, ont imposé sa supériorité. Ça va pas bien là, du côté du Bayern, autant sur le terrain qu'en dehors.
Ouais, écoute, d'abord, on va commencer du côté de City. Moi, c'est pas compliqué. Je pense que Manchester City vient de lancer un message à l'Europe avec cette victoire en sens unique contre le Bayern à domicile du côté de l'Etihad Stadium. Une belle démonstration des Citizens. Ils ont absolument maîtrisé le Bayern de Munich dans cette rencontre-là. Puis ça commençait avec un beau but en plus de Rodri, qui était quand même jumelé à John Stones en défense au milieu de terrain. Là. Mais ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, cette décision de Guardiola.
Ouais.
C'est, en tout cas, c'est un pari qui a été réussi de faire jouer Stones avec Rodri au milieu de terrain dans une défense à 3. Puis aussi, ben écoute, Bernardo Silva qui a connu un grand match aussi. Encore une fois, le milieu de terrain également avec De Bruyne puis Gundogan qui ont été excellents. Puis Erling Haaland qui marque son petit but à la 76e minute pour officiellement presque clouer le cercueil du Bayern de Munich. Puis écoute, le Bayern de Munich, le Bayern de Munich se retrouve dans une situation assez compliquée déjà. Ben, écoute, déjà, le changement d'entraîneur n'aide pas. Là. Jouer un nouveau système avec Thomas Tuchel, c'est sûr que ça n'aide pas. Puis en plus, le B, écoute, c'est qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur de. Ben, à la fin de cette rencontre-là, avec la confrontation de le roi Sané, Sadio Mané, ça c'est quelque chose. Ça, c'est, en fait, c'est surréaliste d'entendre que Sadio Mané frappe son coéquipier. Là. C'est venant de cet homme-là. On dirait que je suis comme, oh, là, c'est peut-être le signe que c'est peut-être la fin du Bayern de Munich en Ligue des Champions, à moins qu'il offre une performance sensationnelle au match retour du côté de Munich.
Ouais, ben là, c'est ça. Tu as parlé d'un point très important pour expliquer à ceux qui connaissent pas la situation. Là, c'est qu'en fait, Mané reprochait à Sané comment Sané lui parlait sur le terrain. C'est ce qu'on nous a rapporté. Et l'aurait frappé dans le vestiaire. Et Sané aurait même une blessure à la lèvre qu'il a tenté de cacher aux médias. Et bon, ça, c'est toi qui m'as montré ça. Que, ben, en fait, je peux te laisser le dire, là, vu que ça vient de toi. Qu'est-ce que pourquoi est-ce que Mané aurait frappé Sané?
Écoute, je pense que ça remonte à une semaine en Bundesliga. Le roi Sané criait sur Sadio Mané juste parce qu'il ne donnait pas le ballon. Et il y avait déjà des frictions entre les deux joueurs avant la rencontre contre City en Ligue des Champions. Puis par la suite, c'est après d'après les informations brutes, le roi Sané arrêtait de propos racisme, c'est pas compliqué là. On va pas mâcher les mots à l'endroit de Sadio Mané, puis Sadio Mané n'aurait tout simplement pas pris et avait décidé de régler son compte avec le roi Sané après la rencontre dans les vestiaires et le frapper. Résultat, le Bayern a décidé de suspendre Sadio Mané jusqu'à nouvel ordre, mais aux dernières nouvelles, ça a l'air que le roi Sané a arrêté de voir Thomas Tuchel pour lui dire de juste pas trop sévère sur Sadio Mané. Et aux dernières nouvelles, je crois, si je ne me trompe pas, Sadio Mané va être suspendu au moins pour la prochaine rencontre du Bayern en Bundesliga, mais je ne sais pas si la suspension va être jusqu'à nouvel ordre ou ça va être seulement pour un match. Mais bref, c'était vraiment le roi Sané qui insultait Sadio Mané. Sadio Mané, avec raison, a absolument pas pris ses propos de la part de le roi Sané, puis a décidé de le frapper au visage. C'est loin d'être la meilleure solution.
Ouais, la violence régulière, on n'encourage pas tant.
Mais moi, je comprends quand même la réaction de Sadio Mané. Surtout que Sadio Mané, on connaît ce personnage-là, on le sait que c'est pas quelqu'un qui est violent, c'est pas quelqu'un qui a tendance à avoir des sauts d'humeur.
On n'a jamais vu ça à Liverpool. Hein.
Non, c'est ça. Mais écoute, en même temps, pour Sadio Mané, ça résume un peu sa première saison très difficile du côté de Munich. Début de saison, les deux premiers mois, ça a été plus difficile. Par la suite, il a été blessé à 2-3 semaines de la Coupe du Monde, a raté presque 3 mois d'activité, essayé de revenir au jeu, puis c'est très difficile de s'adapter du côté du Bayern de Munich. Puis à l'heure actuelle, je pense qu'il est peut-être temps de le dire, mais je pense que l'expérience Sadio Mané du côté de Bayern Munich est à l'échec. Je pense que ça ne fonctionne tout simplement pas pour Mané du côté de Munich. Mais est-ce qu'au final, c'est parce que Sadio Mané n'est pas capable de s'acclimater au style de jeu du Bayern? Ou c'est juste que le Bayern de Munich ne fait pas assez confiance à un joueur du talent de Sadio Mané? Parce qu'on sait que Sadio Mané, c'est supposé être une de tes têtes d'affiche de ton équipe. Si on regarde à Liverpool, c'était une vedette. Là. C'était un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Mm-hmm. Puis de ne pas le voir performer avec le Bayern et en Allemagne, je trouve ça assez spécial, là, pas de mentir. Là.
Oui, c'est surprenant considérant que Mané est un joueur de très grand talent. Je pense que le problème du côté du Bayern, c'est que dans nos signatures, on n'est pas allé chercher de remplaçant à Lewandowski. On en a déjà parlé à Jean-Zon Ballon-Rond, je pense. Mais on a plein de joueurs qui évoluent dans le même secteur de jeu. Coman, Gnabry, Moussiala, Mané, Sané. On a Choupo-Moting en avant, mais on va se dire, même s'il surprend, avec des bonnes performances parfois, ce n'est pas un attaquant, un avant-centre de premier plan, il faut le dire. Et on n'a pas ça dans l'effectif du Bayern. Donc, Mané, je pense qu'il y a de la misère à trouver son rôle dans tout ça parce qu'il y a plusieurs joueurs qui ont un peu le même mandat que lui en tant qu'ailier, pas mal. Là. Donc, je pense que c'est pas évident pour Sadio Mané, puis je serais pas surpris comme toi qu'il quitte le club. Puis pour ce qui est de la Ligue des Champions et de la Bundesliga, c'est vraiment pas une bonne chose d'avoir des frictions comme ça dans son vestiaire entre deux joueurs très importants en plus. Parce que le Bayern doit aussi se battre en Bundesliga. Mais bref, pour ce qui est de la Champions League, moi je pense que City là, avec un 3-0 va voguer vers la demi-finale. Ceci dit, le Bayern est une excellente équipe, est capable de revenir. Par exemple, avec ce qui se passe dans le vestiaire et la saison un peu plus difficile du Bayern cette année, le changement de coach que tu as mentionné, j'y crois moins. Je ne sais pas pour toi.
Moi aussi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas tout simplement. Puis, écoute, tu l'as pas vraiment mentionné, ne pas avoir de ta carte pointe pour le Bayern Munich, ça fait mal. Écoute, tu passes de Lewandowski. Je suis pas Martin qui fait de l'excellent travail en passant. Là. Il fait vraiment de l'excellent travail du côté de Munich. Mais c'est juste que.
Mais c'est pas au premier plan.
C'est ça, c'est pas premier plan pour une équipe comme celle du Bayern de Munich. Puis écoute, cette semaine, je ne sais pas si tu l'avais vu, mais ça a l'air que. Bon, ça a l'air que. Ça, c'est Julian Nagelsmann, l'ancien entraîneur-chef du Bayern de Munich, qui a dit ça. Ça a l'air que Nagelsmann avait demandé au Bayern de Munich d'acheter Cristiano Ronaldo durant l'hiver, puis qu'Oliver Kahn a dit non. Ça a l'air que. Mm-hmm. Puis peut-être que ça aurait fait une différence pour le Bayern de Munich d'aller peut-être chercher un joueur de la trempe de Cristiano Ronaldo. Pour jouer en attaque à la pointe. Peut-être que ça a changé des choses et peut-être que ça a réveillé le Bayern de Munich davantage. Mais en même temps, écoute, avec le niveau que Cristiano Ronaldo a aujourd'hui, est-ce que ça a été vraiment la solution à 100% du côté de Munich? Je ne sais pas.
Ben, écoute, je ne sais pas si ça aurait été la solution, mais ça aurait été une signature plus logique en termes de positionnement, selon moi. Comme je l'ai dit, ouais. Mané n'est pas un striker. On est allé chercher Mané. On n'est pas allé chercher Ronaldo. C'est sûr qu'avec ça pour ça à Manchester United, on comprend un peu pourquoi il y avait pas mal moins d'intérêt en Europe pour lui. Mais ça aurait été extrêmement divertissant de voir Ronaldo au Bayern, ça c'est sûr. Est-ce qu'il aurait eu le niveau? Je suis d'accord avec toi, on n'est pas sûr. Mais bref, voilà ce qui conclut les matchs de mardi. Donc, Manchester City et l'Inter Milan sont grandement favoris pour passer. Pour ce qui est des matchs de mercredi, encore une fois, très intéressant ces deux matchs-là. Deux cartons rouges dans chacun des matchs, à commencer par le match du Real contre Chelsea. Chelsea, c'est la déroute depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois du côté de Chelsea. 11e, je pense, en Premier League, ça ne va pas du tout. Et ça allait un peu mieux en Champions League parce qu'on était parvenu au quart de finale. Mais là, le Real Madrid, qui n'est pas dominant en Liga, mais l'est extrêmement en Ligue des Champions, sont les champions en titre. On a battu Chelsea, mais j'ai regardé le match et je dois dire que Chelsea s'est bien débrouillé quand même. T'sais, a pas réussi à marquer, mais s'est bien débrouillé, a quand même calmé les ardeurs de Madrid, qui, oui, a marqué deux buts, mais un but qui est survenu après un carton rouge de Benjamin Chilwell, qui est grosse faute sur Rodrigo. Écoute, c'était un carton rouge. Mais quand même, Chelsea aurait pu très bien finir 1-0. Peut-être même 1-1 si on avait été capable de capitaliser sur une chance de marquer. Mais bref, je pense quand même que Madrid va s'en sortir. Même 2-0. Le prochain match est à Stamford Bridge, je ne me trompe pas. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Chelsea. Mais Real Madrid a tout de même sorti une bonne performance. A été capable d'accrocher Chelsea. Mais est-ce que tu as vu le match, toi?
Ouais, bien sûr. J'ai regardé tous les matchs. Fait, mais surtout, celle de match, j'ai regardé avec un peu plus d'attention.
Ouais, qu'est-ce que t'as pensé?
J'avais surtout l'occasion de regarder ce match-là. Ben d'abord, écoute, je suis du même avec toi. Écoute, surtout en première demi, Chelsea avait quand même procuré, il s'était procuré quand même de bonnes occasions de marquer. Puis ça allait quand même bien du côté du côté des Blues. Bon, écoute, à la suite, Benzema marque. Quand même pas trop tôt, mais quand t'es quand même en première mi-temps, puis ça quand même permet au Real Madrid, encore une fois, de prendre les devants. Puis écoute, il y a eu plusieurs situations assez particulières dans cette rencontre-là. Bon, déjà, Chelsea, le fait de ne pas avoir de. Comme ça ressemble un peu au problème du Bayern, déjà, ne pas avoir d'avant-centre, ça fait mal parce que bon, tu t'es ramassé avec un Joao Félix puis Raheem Sterling et Kai Havertz qui sont quand même des bons joueurs, mais c'est pas des finisseurs naturels, c'est pas des grands marqueurs. Donc, déjà là, pas avoir quelqu'un qui est là un peu comme ils l'ont eu pendant des années avec Drogba ou même tout récemment avec Diego Costa, déjà ne pas avoir ça, pas avoir cette option-là d'avoir un attaquant de pointe, ça fait mal à Chelsea. Par la suite, écoute, moi, je suis un grand fan de ce joueur-là. Mais Rich James a eu un match extrêmement difficile contre Vinicius. Je m'excuse, mais Vinicius, pour vrai, l'écart entre Vinicius et Kylian Mbappé est beaucoup moins grand que je pensais. Parce que Vinicius, en Ligue des Champions, est absolument fantastique.
Ah oui.
C'est moqué de Rich James durant toute la rencontre. Rich James, qui d'habitude, défensivement, est probablement un des meilleurs en Première Ligue à son poste.
C'est un des meilleurs latéraux de Première Ligue.
Tout c'est court. Ça. Et il s'est fait manger par Vinicius durant toute la rencontre. T'es pas capable de gérer la vitesse de Vinicius. Aussi, là, comme tu l'as mentionné, le carton rouge de Chilwell, après avoir accroché le bras à Rodrigo alors qu'il partait tout seul face à Kepa, c'était un carton rouge qui, en fait, c'était un mouvement absolument inutile de la part de Chilwell, puis ça a juste
Ben, c'était
cassé les règles
inutile.
de.
C'est parce que Rodrigo allait
Oui, mais.
aller seul contre Kepa ensuite,
Kepa,
mais c'est
mais
sûr que ça
je
allait
pense
être un
que.
rouge.
Ouais, je sais, mais je pense que quand même, au point que Chelsea était rendu dans la rencontre, c'était quand même un geste désespéré. On dirait que ça me faisait penser à l'apogée de Ramos sur Real, des fois, quand ça arrivait contre le Barça, il faisait des gestes de la sorte. Déjà, ça a juste complètement cassé les reins de Chelsea. Puis écoute, la blessure de Koulibaly a fait mal aussi à la défense de Chelsea, qui s'est ramassée avec une charnière. De Wesley Fofana et de Chalobah, qui les deux ensemble, ça a été extrêmement difficile tout en fin de rencontre. Ça aurait pu finir beaucoup plus que 2-0 pour le Real Madrid. Chelsea était capable de limiter les dégâts. Puis écoute, mais encore une fois, je pense que la porte est encore ouverte pour un match excitant du côté de Stamford Bridge. Mais clairement, écoute, clairement que le Real Madrid est favori
Ah, ouais,
pour aller en
clairement. Puis,
demi-finale. Ça, vas-y.
ouais, ben c'est ça. Chelsea, là, c'est pas compliqué. Il faut arrêter la paire Benzema-Vinicius que personne n'a réussi à arrêter là, dernièrement en Ligue des Champions, notamment l'an passé. Là, on se rappelle ce parcours. Et aussi, Chelsea, autant en Premier League qu'en Champions League, il faut marquer des buts. C'est incroyable comment ils sont incapables de marquer des buts. En Champions League comme en Premier League. Fait que c'est les deux clés. Notamment marquer des buts. T'sais, la défensive de Chelsea, c'est leur point fort. Ils sont quand même pas si mal. Là, Koulibaly, je ne sais pas s'il va être le prochain match, mais ça va un peu mieux en défense. C'est en attaque. Faut marquer des buts. Puis là, on est en retard 2 à 0. Fait qu'il faut en marquer, mais il ne faut pas en encaisser en plus. Ça va être très compliqué encore une fois. Là. Comme tu l'as
Ouais.
dit, je pense que Madrid va s'en sortir.
Ouais, puis écoute, on va peut-être le droit à une demi-finale. Ça va être la même demi-finale que l'an dernier, là, de demi-finale Real Madrid de Man City. Mais là, on va avoir une demi-finale avec un enjeu encore plus intéressant que l'an dernier. Tu te retrouves avec une vengeance, une revanche de l'an passé. Puis surtout de la façon que Man City l'a échappé contre le Real, ça risque d'être intéressant de voir ces deux formations-là. S'affronter du côté de Manchester City, ils vont Erling Haaland, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Intéressant de voir comment le Real va être capable de gérer Erling Haaland. Puis écoute, du côté du Real Madrid, c'est une équipe qui est absolument incroyable à avoir joué en Ligue des Champions. C'est leur compétition, c'est pas compliqué. Là, genre, même là, c'est ça qui est fou, c'est que malgré que Real Madrid soit champion, qu'ils ont 14 titres de Ligue des Champions, puis que comme on connaît la force de cette équipe-là dans cette compétition-là, ils vont quand même se retrouver désavantagé face à Manchester City, encore une fois. Fait que ça risque d'être intéressant, mais avant de s'avancer, écoute, il faut quand même laisser une chance au Bayern de Munich et à Chelsea
Exact.
de pouvoir offrir une performance digne de leur nom au match retour de leur quart de finale respectif.
Exactement. Et j'ai perdu ce que. Oui, c'est ça. C'est que tu as parlé de Manchester City qui s'était fait jouer le tour par le Real l'an passé avec un match de fou. Ben, Chelsea aussi. Le Real leur avait joué le même tour. Donc là, Chelsea pourrait se venger et faire un miracle au match retour. C'est ce qu'on va voir. Et l'autre quart de finale qui avait lieu mercredi, c'était tout italien, comme on parlait tantôt, AC Milan contre le Naples. Et il faut dire qu'il y a quelques matchs, l'AC Milan avait complètement ramassé le Naples 4 à 0. Grosse défaite pour Naples qui a quasiment pas subi de défaite de la sorte cette année. Grosse saison. Et là, encore une fois, perdre contre Milan 1 à 0. Mercredi, c'est avec un but. Qui a marqué déjà? Attends un peu, je vais te dire ça.
Benassar.
Benacer, un beau jeu quand même là-dessus de Milan. Napoli a manqué beaucoup de chance, ça, faut le dire, là.
Oh,
Napoli était dans ce match-là. Et ensuite, Zambo Anguissa qui prend un carton rouge. Ça n'a pas aidé ça non plus. Mais ouais, malgré l'absence plutôt de Victor Osimhen, Naples, à plusieurs reprises, là, aurait pu marquer. Mike Maignan, gros match là, de son côté. Alors, je pense que c'est le match retour le plus intéressant. Est-ce que ça va être du côté de Naples?
Ouais, c'est du côté de Naples. Ouais,
parce que le match aller était du côté de San Siro. Fait que, ça va être extrêmement intéressant comme match. Anguissa, qui ne sera pas là, ça va faire mal au milieu de terrain.
Il n'y a pas de seul aussi. Il y a Minja aussi qui ne va pas être là au match retour aussi.
C'est vrai.
Il y a un autre carton jaune. Ça va faire mal à la défense de Naples.
Minjae, Anguissa et Osimhen, est-ce qu'il va être de retour? On ne le sait pas.
On ne le sait pas non plus.
Oui, ça pourrait faire extrêmement mal. Il faut que Gvicha Kvaradona, de son surnom, sorte un très gros match. Mais je suis très excité pour ce match-là.
Ouais, ben moi aussi, mais écoute, pour vrai aussi, l'arbitrage a été plus que discutable dans cette rencontre-là. C'est ça qui a un peu gâché cette rencontre-là. Qui pourrait être.
Le jaune en guise, entre autres.
Ouais, c'est ça, le carton. Le carton jaune de Minjae, c'était pas. C'était, à mon avis, son carton jaune était très limite, voire pas mérité du tout. Pour Anguissa aussi, que ça aussi, c'était questionnable aussi. Mais,
le deuxième d'Anguissa, je pense quand même.
Ouais, le deuxième mérité. C'est surtout le premier. Mais écoute, tu l'as mentionné, moi, les 20 premières minutes de la rencontre, de cette rencontre-là, où que Naples a créé de nombreuses occasions de marquer, puis que heureusement que Magmenia était au sommet de sa forme, a permis à son club de rester dans la rencontre. Puis par la suite, ils ont réussi à marquer juste avant la mi-temps. Puis grâce à ça, ils ont été capables de. La AC Milan était capable de remporter. Parce que le match allait pour l'instant, mais ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer, surtout au match retour, de voir surtout comment ils vont se débrouiller avec autant d'absents aussi du côté de Naples, alors que c'est une équipe qui gère facilement son championnat cette saison. Il faut dire Naples qui était probablement l'équipe la plus dominante en Europe cette année. Puis,
l'une des plus dominantes.
Honnêtement, je ne sais pas ce que tu en penses, Élie, mais moi, je pense que c'est de loin le match retour le plus excitant des quatre rencontres. Là.
Exactement, c'est ce que je disais. T'sais, c'est l'écart le plus petit dans les quatre matchs. Fait que ouais, moi, je pense c'est lui que je vais regarder avant Chelsea-Real. Ben, non, en fait, ça sera pas les deux qui vont jouer en même temps, mais c'est le match dont j'ai le plus hâte, effectivement. Et on a beaucoup parlé des prouesses de Naples. Il faut dire qu'ils ont perdu. Là. Puis l'AC Milan a joué quand même un bon match. Bennacer, un beau but. Raphaël Leão et Brahim Diaz, de très gros matchs. Raphaël Leão, c'est un joueur qui a une saison plus difficile cette année, mais c'est tout un joueur dans ses accélérations. Il est capable de sortir des buts de folie de temps en temps. Alors, l'AC Milan, on parle beaucoup de Naples, mais l'AC Milan est capable de compétir et de gagner ça. Ils ont l'avantage en plus et ça pourrait donner une finale non seulement 100% italienne, mais aussi 100% milanaise si c'était l'Inter contre l'AC Milan. Ça va être donc très, très intéressant de suivre tout ça, la Ligue des champions. Restez à l'affût. Maintenant, l'Europa League, rapidement, là, dans les matchs qu'on a peut-être moins suivis, Feyenoord a gagné 1-0 contre Roma. Donc, José Mourinho, il va falloir qu'il redresse son équipe pour le match retour s'il veut continuer. Parce que la Roma est parmi quand même, dans les équipes restantes, une de celles qui pourrait aller remporter ça. Mais Feyenoord, très bonne saison aux Pays-Bas. Sinon, on avait Leverkusen et l'Union Saint-Gilloise, 1-1. L'Union Saint-Gilloise, toute une surprise, eux autres, mais qui tient tête à Leverkusen 1-1. Et sinon, les deux matchs qu'on peut parler peut-être un peu plus. Juventus qui s'en sort contre le Sporting. Angel Di Maria, encore un gros match. C'est le défenseur latéral Gatti qui a marqué sur corner. Tu veux-tu dire un petit mot sur cette rencontre-là? Ou sur une autre qu'on vient de passer?
J'ai pas tant suivi cette rencontre-là, mais d'après ce que j'avais vu, c'est que c'était quand même une rencontre assez équilibrée là, en général du côté de Turin. Même le Sporting avait quand même bien joué en général. Pour vrai, je pense que c'est comme tu as mentionné, je pense que c'est quand même un match qui risque d'être ouvert. Là. Je pense que le match retour risque d'être chaudement disputé entre les deux équipes. Malgré que pour l'instant, la Juventus reste la favorite pour peut-être s'en sortir. Mais écoute, le Sporting Sporting se débrouille très bien. Écoute, le Sporting a quand même éliminé Arsenal.
Ouais, c'est vrai.
De la dernière encore, Arsenal qui, à l'heure actuelle, est encore l'équipe numéro 1 en première ligue. Il faut quand même mentionner. Ouais. Donc, c'est un match qui est loin d'être terminé. Là.
Vraiment, vraiment. Puis, j'ai vu les faits saillants. Et Mattia Perin, c'est ça son prénom, ouais, le deuxième gardien de Juventus, est rentré pour Szczęsny durant la rencontre. Mm-hmm. Je crois que c'est pour une blessure, mais je ne suis pas sûr. Donc, et a effectué un double arrêt contre un joueur du Sporting, je ne me rappelle plus qui. Mais grosse performance là-dessus. On aurait facilement pu marquer du côté du Sporting, mais la Juventus s'en sort. Di Maria, qui est encore très bon. Federico Chiesa aussi, qui est un joueur que j'apprécie beaucoup, commence à redevenir titulaire là, à la Juventus. Il a été blessé en début de saison. Avait connu tout un euro, lui. Donc, voilà. La Juventus qui est en bonne voie pour s'en sortir, mais Sporting, il faut faire attention à eux, ça, c'est certain. Maintenant, le match qui a retenu le plus l'attention en Europa League, on en a parlé beaucoup, toi et moi, Manchester United, Séville. Deux buts de Marcel Sabitzer en début de match, un doublé pour Man United qui jouait sans Rashford. Mais qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps? Conte-moi ça, Edou.
Écoute, comme tu l'as mentionné.
En fin de match, pas juste en deuxième mi-temps. Là.
Non, mais écoute, je peux raconter la deuxième mi-temps au complet, là, c'est pas compliqué. Écoute, deuxième mi-temps, je m'excuse, là, mais catastrophique pour Manchester United. En deuxième demi, Raphaël Varane quitte la rencontre par blessure et est remplacé par le légendaire Harry Maguire qui embarque pour le remplacer. Qui, je ne me trompe pas, est quand même encore capitaine de Manchester United à l'heure actuelle.
Quand il joue, parce qu'il ne joue pas.
Quand il joue, c'est ça. Quand il joue, donc il a mis son brassard de capitaine. On va revenir plus tard sur son cas, mais c'est ça. Déjà, ça a commencé avec ça. Par la suite, je ne me rappelle plus c'était à quelle minute. Je pense que c'est dans la 60e minute. Bruno Fernandes se prend un carton jaune. Donc, c'est un autre carton jaune pour lui. Résultat, il va rater le match retour du côté de CV à cause d'une trop grande accumulation de cartons jaunes. CV revient dans la rencontre. Quand même Terrell Malicia qui marque contre son cas. 84e pour permettre à son équipe de revenir dans la rencontre et de réduire l'écart à un but. Par la suite, deux minutes plus tard, Lisandro Martinez se blesse. Puis une grosse blessure là, du côté de Lisandro Martinez qui va rater le reste de la saison malheureusement pour Manchester United. Quitte le terrain, même pas capable de quitter le terrain par lui-même, c'est ses coéquipiers de l'Argentine qui jouent pour CV qui l'ont aidé à quitter le terrain en le tenant dans leurs bras et pour l'amener jusqu'à la civière, puis après ça il a quitté la rencontre. Et par la suite, dans les arrêts de jeu, Harry Maguire marque contre son cas à la 90e minute pour permettre à CV d'aller chercher le match nul du côté de Manchester. C'est une deuxième demi catastrophique pour cette équipe-là de Manchester qui se retrouve avec un match nul et qui doit se déplacer du côté de CV sans sa charnière de Varane et Martinez, sans Bruno Fernandes, et on ne sait pas si Marcus Rashford va être là également pour le match retour. Donc, Manchester United qui se retrouve avec beaucoup de blessés. Puis, écoute, chapeau à CV qui a trouvé un moyen de se tirer la match nulle sans marquer, sans qu'un joueur marque. C'est quand même assez particulier tout ça. Là.
Ben écoute, j'ai pas vu le match, là, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, de comment ça s'est déroulé, c'est sorti d'absolument nulle part, les deux buts de Séville. Là. Les buts étaient complètement chanceux, il faut le dire aussi.
Oui, exactement. Harry Maguire, on rit souvent de lui, mais là, cette fois-ci, c'était pas de sa faute. Il a quand même joué un match correct. Là. Il n'a pas joué un mauvais match, loin de là. Là. Puis, mm-hmm. Mais malheureusement, on ne sait pas comment.
Mais il l'a fait, il a bloqué un tir, puis ça s'est ramassé dans le but.
Oui, exactement. Avec la tête. Ça a dévié sur sa tête, puis c'est rentré dans le but. Donc, c'était juste Pour vrai, Séville était anormalement trop chanceux, là. Genre, c'est pas compliqué, là. Genre, c'est malheureux, là. Pour vrai, c'est comme une... C'est une deuxième mi-temps oubliée pour Manchester. Puis là, ils se retrouvent à jouer un match à l'extérieur avec plein de blessés ou des suspensions. Donc, ouais. Ça va être intéressant qu'est-ce qui va se passer de Manchester United. Puis en plus, ils sont quand même dans une course pour une place en Champions League.
Exact.
Du côté de la Première Ligue. Donc déjà, tu te retrouves sans tes deux meilleurs défenseurs. Aïe, là. Genre, c'est catastrophique pour Manchester United.
Ça fait très peur. Puis en plus, Martinez, c'est pour le reste de la saison, mais pour ce qui est de Varane, est-ce que tu sais...
C'est quelques semaines.
Quatre semaines?
Non, c'est quelques semaines. On ne sait pas si
quelques c'est semaines. Okay.
Quelques semaines.
Tu vois, c'est dangereux. C'est très dangereux. Puis CV, écoute, c'était complètement chanceux leur égalisation. Mais là, avec un Manchester très affaibli, ils peuvent très bien... là. Aller gagner ça. C'est à la maison en plus, je pense, le match retour, c'est à Séville, je crois.
Ouais. Ouais, c'est ça, c'est à Séville exactement.
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ça pourrait très bien, ça serait cauchemardesque pour Man United à ce moment-là.
Puis ouais, l'autre détail aussi que je vais le rajouter, Martinez s'est blessé tout seul. C'est pas la suite d'un contact, il s'est blessé tout seul.
Puis c'est une fracture, là.
Ouais, c'est une fracture tout seul. Il a mal tombé. C'est juste, c'est affreux qu'est-ce qui s'est passé dans cette deuxième mi-temps de Manchester. C'est juste affreux, c'est horrible. C'est une deuxième mi-temps oubliée. Puis c'est une deuxième mi-temps qui peut coûter peut-être une Europa League à Manchester United. C'est quand même assez particulier tout ça. Là.
Ouais, quand tu parles de malchance, là, c'est ça. C'est la définition de malchance dans le dictionnaire. C'est la deuxième mi-temps de Manchester United. Comme tous les blessés et tous les buts contre son camp qui se sont produits. Là, tu parlais de la course en Premier League. Pour ce qui est de la tête, on en parle plusieurs semaines. Ça joue entre Arsenal et City. Le présentement, Arsenal a 6 points d'avance sur City, mais City a un match en main. Donc, c'est vraiment pas fini de ce côté-là. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est... La course pour la Ligue des Champions, comme tu l'as dit tantôt, il y a Tottenham qui est dans cette course-là, il y a Newcastle qui est dans cette course-là. Donc, on sait, City et Arsenal vont faire la Champions League, c'est sûr. Mm-hmm. Alors, ces trois équipes-là, là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres prétendants, là, Brighton, Liverpool, Aston Villa sont un peu loin. Là. Tottenham, Newcastle, Man U, considérant les blessures et tout pour Man U, qui fait la Ligue des Champions, d'où? Selon toi?
Chelsea.
oui, c'est ça, oui.
Pour vrai, moi, je pense que ça va pas tant bouger. Je pense que... Non, ça va pas bouger. Je pense que Newcastle et Manchester United vont être dedans les équipes à se qualifier pour la Ligue des Champions. Puis je pense que Tottenham va se ramasser en Europa League. Newcastle a quand même une bonne saison en général. Je pense qu'ils vont être capables de se débrouiller à la fin de saison. Puis Manchester United, malgré que je viens de dire que ça va être compliqué en raison des blessures, va quand même trouver le moyen de se qualifier en Ligue des Champions. Peut-être qu'ils vont terminer quatrième, mais écoute, ça va être quand même difficile pour Manchester parce qu'ils se retrouvent quand même à affronter, on vient de rire, mais ils vont affronter quand même Chelsea. Puis je ne sais pas s'ils doivent affronter City aussi plus tard dans la saison. Je ne sais pas, je pense pas. Non, ça, j'ai rien dit. Non, il ne va pas affronter City en fin de saison, mais...
Ça va être difficile quand même. Ouais, tu sais, avec toutes les blessures que tu as nommées, c'est faisable, là, mais ça va être difficile. Mais quand même, ils ont une certaine avance sur Tottenham parce que non seulement ils ont 3 points, Tottenham est à 53, eux, ils sont à 56, mais aussi Tottenham a un match de plus de jouer. Puis, donc, ça joue en leur faveur.
Il y a un autre détail important. Manchester United et Tottenham s'affrontent dans 2 semaines du côté de Manchester. Fait que ça va être un match hyper important pour la Première Ligue. Pour la Première Ligue et aussi pour la qualification en Ligue des Champions d'une de ces deux équipes-là. Puis ça va être au lendemain de la confrontation probablement de la saison du côté de Manchester, mais de leurs voisins. On va parler plus tard là, que, que Manchester City et Arsenal vont s'affronter du côté de l'Etihad Stadium.
Oui, tout un match.
Écoute, ça va être assez... La fin de saison de Première Ligue va être hyper intéressante, puis il risque d'avoir des surprises, d'après moi, d'ici la fin de saison, malgré que je viens de dire que ça va être des mêmes quatre équipes qui vont se qualifier en Ligue des Champions.
Exactement, et je suis d'accord avec toi, ça va être très intéressant à voir, et j'ai comme toi, je pense que je vais aller avec United et Newcastle pour la Ligue des Champions. Ça va être très intéressant de voir Newcastle en Champions League l'an prochain, si c'est ça qui arrive. Pour ce qui est de l'Europa et de la Conférence League, ben pour Conférence c'est la 7e place, puis c'est une place pour les qualifications, donc rien n'est acheté à ce moment-là. Mais on est deux partisans de Liverpool. Mm-hmm. Ils sont à 44 points. Ils sont à 2 points de Brighton, 3 de Aston Villa et 9 de Tottenham. Est-ce que Liverpool va être exclu de l'Europe, Do? Grosse question.
Je sais pas. Si tu regardes, maintenant si on prend le dernier match contre Arsenal, si tu regardes la première demi, je te dirais oui. Si tu regardes la deuxième demi, je te dirais
absolument
non. Je sais pas cette équipe-là. C'est ça le problème cette saison. Ouais. C'est une équipe qui. C'est une boîte à surprise cette équipe-là. Là. C'est pas compliqué. Là. Des fois, se retrouve à être hors de leur jeu, là, littéralement. Là. C'est comme, on sait pas ils sont où. Puis des fois, ils se retrouvent à être parmi les meilleures équipes d'Europe, comme la deuxième demi contre Arsenal, ou même comme la première demi-ish contre le Real au match aller de Ligue des Champions. Cette équipe-là, elle est tellement inconstante que j'ai vraiment de la misère à croire qu'ils vont... qui vont trouver un moyen de se qualifier soit pour l'Europa, soit pour la Conference League. Mais écoute, tout est possible encore. Là, genre, ils ne sont pas si loin que ça de la Conference League. Bon, un peu plus loin pour l'Europa League, mais on ne sait jamais. Écoute, peut-être qu'avec avec une fin de saison plus difficile pour Tottenham, peut-être qu'ils vont trouver un moyen de s'en sortir et de se qualifier pour l'Europa League. Qu'est-ce qui, si on regarde dans leur saison en Première Ligue, serait quand même une réussite. Là.
Ouais, puis tu l'as dit, là, la deuxième demi contre Arsenal, écoute, on a vu ce match-là, les deux, et Arsenal l'a échappé en deuxième demi, Liverpool dominait, et aurait facilement pu aller chercher la victoire avec un but, ça aurait fait énormément de bien, là. Mais là, on s'en est tiré seulement avec la nulle. Donc, écoute, moi, Liverpool là, une équipe quand même de grande qualité, plus que Villa, Brighton et Tottenham, selon moi. Donc, mais comme tu dis, tellement pas de constance depuis le début de la saison. Je vais dire que oui, ils vont être capables d'aller chercher au moins la 7e place. Mais même on s'attend à beaucoup plus d'eux. Donc, même l'Europa League serait une déception. Mais oui, il le faut. Là, ça serait vraiment catastrophique. Mais ça serait moins catastrophique que Chelsea qui, eux, n'ont très probablement pas de place européenne. Bon, rapidement pour finir l'épisode d'où qui a passé encore une fois très vite. Petit retour sur les quatre autres ligues en Europe. Bon, la Liga, Barça va la gagner, c'est sûr et certain. Serie A, Naples va la gagner, c'est sûr et certain. Ouais. Là où est-ce qu'il y a un petit... il y a beaucoup de suspense en Serie A, c'est les places européennes. Lazio est en bonne position, mais Roma, AC Milan, Inter, Atalanta, Juventus... Il y a 9 points seulement qui séparent ces équipes-là. La Juventus, qui avait perdu 15 points, il faut le dire, là, elle est tout proche d'une place européenne. Et pour ce qui est de la Champions League, là, ça joue à très, très peu. Entre Roma, AC Milan, Inter, Atalanta, qui fait la Champions League selon toi?
Ah, écoute, ça c'est vraiment difficile. écoute... moi, je pense quand même que l'AC Milan va trouver un moyen de rester en Ligue des Champions. Mais écoute, pour vrai, ça va être très difficile entre. Je pense que je vais aller avec les deux équipes de Milan. Mais même là, je sais pas. C'est quand même une équipe de José Mourinho. Là. Je peux pas mettre une équipe de José Mourinho en Europa.
Mourinho en Champions League, on aimerait beaucoup ça.
Ouais, c'est ça, ouais, juste pour le show, ce serait excellent.
L'Inter, c'est difficile quand même cette année, mais tu sais, ils vont bien en Ligue des Champions. Ça serait fou que l'Inter ou l'AC Milan ne fassent pas la Ligue des Champions l'an prochain et se soient rendus en demi-finale cette année. Là.
Ouais, c'est ça, c'est quand même assez rare comme situation. Il y avait une équipe qui avait fait ça il n'y a pas si longtemps que ça. Se qualifier long. Ah, ben Chelsea! Chelsea, ouais. C'est arrivé. Là.
Puis Villarreal, c'était-tu les demi-finales l'an passé?
Ouais, Villarreal a fait demi-finale, ouais.
Puis le Villarreal n'est pas en. Pas en, Ligue, en fait, rien fait en Ligue des Champions cette année. Il ne le sera pas l'an prochain, je crois.
Non, mais écoute, je vais aller avec les deux équipes de Milan. Je pense que les deux équipes de Milan.
Je pense que c'est le choix le plus logique, mais Roma, quand même, il faut faire attention à la Roma.
Ouais, exactement. Pas Atalanta, malheureusement. Puis la Juventus, normalement, sera en Ligue des Champions si ce n'était pas des 15 points perdus à raison de la sanction qu'ils ont eu.
Juventus serait troisième là, en ce moment avec leur 15 points. La Lazio, il faut féliciter, ils sont quand même plusieurs points en avant de tout le monde qu'on vient de nommer et ils vont finir pas mal sur deuxième. Donc, ça, c'est quelque chose qui est surprenant. Je ne m'attendais pas à voir la Lazio deuxième de Serie A.
Ouais.
Bundesliga, bon, ça va être toute une fin de compétition. Bayern a remporté le Classica, je crois que c'était la semaine passée. Donc ça, c'est un match très important qu'ils sont allés à leur faveur, mais Dortmund reste à 2 points de là. Il y a quelque chose qui me dit que le Bayern va perdre en Ligue des Champions, puis il va ensuite être capable de se concentrer sur la Bundesliga et de la remporter. Mais Dortmund joue bien cette saison. Dortmund joue très bien cette saison. C'est très possible, mais je me dis, le Bayern, c'est le Bayern, puis Thomas Tuchel va être capable de redresser ça quand même, je pense. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
Moi, je pense que malheureusement, je pense que la défaite de Dortmund il y a une semaine ou deux contre le Bayern, il nous a juste confirmé que même malgré peut-être une possible élimination avec des champions, le Bayern va trouver le moyen de remporter encore une fois la Bundesliga. Ça aurait été bien, par contre, de voir une équipe comme Dortmund, voir une équipe comme l'Union Berlin se qualifie, remporter ce championnat-là, ça aurait été fantastique pour l'équilibre de cette ligue-là. Mais écoute, je pense que je suis du même avec toi. Je pense que le Bayern de Munich va trouver le moyen de tout simplement gagner la Bundesliga encore une fois.
Tout à fait. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais il reste 7 matchs à jouer. Et seulement 2 points qui séparent les deux équipes. Donc, c'est encore extrêmement possible pour Dortmund d'aller chercher la Bundesliga. Finalement, Ligue 1, bon, Paris devant de 6 points. C'est ce qui n'est pas assez, tant qu'à moi, mais quand même, ils sont en bonne position pour remporter la Ligue 1. Ensuite, Lens, Marseille et Monaco pour la Champions League. Ça, c'est quand même une bonne avance avec Lille. Ce qui est très intéressant, c'est Lyon qui remonte et pourrait aller chercher une place européenne.
Ouais, Lyon va très bien. Écoute, depuis que Laurent Blanc est arrivé derrière le banc, cette équipe-là commence à se redresser. Mais écoute, la Ligue 1, c'est particulier parce que le PSG a une chance qu'il y ait une avance parce qu'il joue mal depuis un mois à Ligue 1.
Ils ont perdu plusieurs rencontres. C'est perdu contre Nice 2-0, je pense. Ou c'était contre
Rennes? Ils ont battu Nice la semaine passée 2-0.
Ils ont battu Nice, ils ont perdu contre Rennes.
Mais avant ça, ils ont perdu 2-3 encore avant ça. Ça allait très mal, plus avec des champions. C'est vraiment un climat assez difficile qui se passe du côté du Paris Saint-Germain. T'as Lens qui continue sur sa lancée. Marseille aussi a eu vraiment des contre-performances au cours des dernières semaines qui font que, normalement, pour vrai, Marseille, s'ils n'avaient pas encaissé 3 matchs nuls lors de leurs 5 derniers matchs, Il aurait réussi à tenir peut-être même proche le Paris Saint-Germain, là, parce qu'à ce moment, le Paris Saint-Germain, ils ont perdu 2 dans 5 derniers matchs en Ligue 1, mais si c'était pas des autres équipes qui ralentissent, ça a été beaucoup plus serré qu'on le pense là, du côté de la Ligue 1. Donc, c'est particulier ce qui se passe en France, c'est vraiment, vraiment particulier, parce que le Paris Saint-Germain est loin d'être dominant cette saison en Ligue 1.
Ah, vraiment, c'est très, très, très décevant, là. Kylian Mbappé, qui a de la misère quand même un peu depuis, après sa Coupe du Monde exceptionnelle. C'est les statistiques vont un peu en dessous des attentes depuis la fin ou peut-être depuis février, mettons. Là. Donc, ça va être à surveiller. Je pense que Paris va quand même s'en sortir. Là. Ça serait un désastre qu'il ne le fasse pas. Mais à surveiller Lyon, à surveiller Rennes aussi, qui est à 50 points. Et Lens, qui est très surprenant cette saison. Voilà, d'où c'est ce qui conclut cet épisode-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans cette fin de session chargée pour être là.
Écoute, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour un autre épisode. Puis regarde, je vais essayer de m'en sortir malgré ma fin de session pour faire d'autres épisodes. Là, c'est sûr que je vais être de retour.
Ah oui, puis anyway, on n'a pas une régularité tant que ça dans Jason Ballon Rond. Et on s'excuse pour ça, mais on est là quand il faut, puis on est là à 100% quand on est là. Donc voilà, surveillez CF Montréal demain au Stade Saputo. Les prochains matchs vont être extrêmement décisifs, peut-être pour Hernan Losada même, comme on en parlait en début d'épisode. Et là-dessus, on vous remercie, chers auditeurs. À la prochaine!